et le journal vous est présenté ce soir par Aurélie Kiffer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Accord d'investissement entre Pékin et Bruxelles. Les entreprises européennes espèrent avoir un meilleur accès au marché chinois. Explication dans un instant d'Angélique Bouin. En 2021, Angela Merkel va céder sa place de chancelière, oui, mais à qui? En prévision des législatives de septembre prochain en Allemagne, la CDU doit rapidement désigner son candidat et trois hommes sont sur les rangs. Dossier signé Ludovic Piétenu à Berlin. Pourquoi la campagne de vaccination anti-Covid démarre-t-elle si lentement en France? Par souci de ne pas brusquer les Français réticents à se faire vacciner, mais aussi parce que le recueil du consentement des résidents d'EHPAD s'avère complexe. Nous y reviendrons. Et puis, il est obligatoire de dénoncer les mauvais traitements infligés à un enfant. Mais à Reims, le voisin du petit Tony, 3 ans, mort sous les coups de son beau-père en 2016, a été relaxé. Nous verrons pourquoi avec Florence Turme. Les entreprises européennes vont pouvoir investir plus librement en Chine après 7 années de négociations difficiles et dans un contexte tendu sur la question des droits de l'homme. Un préaccord a été conclu cet après-midi entre les dirigeants européens et le président chinois Xi Jinping. Précision d'Angélique Bouin à Bruxelles.
L'objectif est de rééquilibrer la relation commerciale. Une entreprise chinoise, souvent subventionnée par Pékin, s'installe beaucoup plus facilement en Europe que l'inverse. Désormais, les entreprises européennes pourront investir en Chine dans de nouveaux secteurs, jusqu'alors inaccessibles, librement, comme les véhicules électriques, les banques ou encore la santé. Sébastien Maillard est le directeur de l'Institut Jacques Delors.
Le but, effectivement, c'est qu'elles puissent investir en Chine sans être forcément collées à une entreprise chinoise locale, sans faire un joint venture. Et donc, qu'on puisse y aller les mains libres, sans avoir des transferts forcés de technologie, et aussi avoir une meilleure transparence sur les entreprises publiques chinoises, sur les aides qu'elles reçoivent, pour là aussi jouer dans la même cour, avoir une équité dans les règles d'échange.
Cet accord respecte et défend nos valeurs, insiste la Commission européenne, qui a négocié au nom des 27. Nous avons obtenu des engagements contraignants en matière de respect de l'environnement et de lutte contre le travail forcé, insiste le communiqué. Reste à savoir si Pékin les respectera. De nombreux eurodéputés en doutent. Il s'agit d'un pré-accord, rappelle Sébastien Maillard, qu'il faudra encore négocier pendant de longs mois avec le Parlement européen et les parlements nationaux.
Pendant toutes ces périodes-là, on pourra continuer à faire pression sur Pékin pour qu'ils honorent leurs engagements et notamment qu'ils signent les deux conventions de l'OIT, de l'Organisation internationale du travail, qui prohibent le travail forcé, qui malheureusement est en vigueur dans leur pays.
Un groupe de travail spécifique suivra la mise en œuvre des promesses, a indiqué la Commission.
Angélique Bouin à Bruxelles. L'accord doit donc être encore validé par le Parlement européen et le Conseil. Signé ce matin par les dirigeants de l'Union européenne, l'accord post-Brexit est aussi validé maintenant par les députés britanniques. Comme prévu, la Chambre des communes a largement voté en sa faveur cet après-midi. Richard Place.
The eyes to the right, 521. Yeah. Nose to the left, 73.
Yeah. 521 à 73, le vote est sans appel. Le Premier ministre et les conservateurs n'ont pas tremblé. Boris Johnson s'était assuré du soutien de sa majorité et les débats du jour n'étaient que de pure forme. Les partis qui ont voté contre ne pèsent pas lourd au Parlement britannique. Ils ont eu l'occasion de chatouiller le gouvernement sur les habituels sujets de friction. Le plus important, sans doute, l'Écosse. Le Parti national écossais a joué sa carte, celle des pêcheurs qui se sentent abandonnés, voire trahis. Derrière cet échange, un calcul plus lointain, des élections dans le pays des Highlands l'année prochaine et ensuite l'espoir d'un nouveau référendum sur l'indépendance. Mais pour aujourd'hui, l'affaire était pliée, surtout que les travaillistes ont eux aussi voté en faveur de ce texte. Leur leader, Keir Starmer, a mis en garde ceux qui étaient tentés de voter contre. Celui qui choisirait cette option aujourd'hui sait que nous n'aurons pas le temps de renégocier. Il n'y aura pas de meilleur accord à attendre dans les prochaines 24 heures. Alors prendre cette option nous emmène vers un seul endroit, le no deal. Presque tous les députés travaillistes ont entendu le message. 36 se sont abstenus, un seul a voté contre.
Richard Place à Londres pour France Culture. Angela Merkel mettra fin à sa carrière politique dans quelques mois. La chancelière allemande aura alors accompli 4 mandats et passé 16 ans au pouvoir, autant qu'Helmut Kohl. Alors, qui pour lui succéder demain? Les élections législatives sont prévues en septembre, mais c'est dès janvier que la CDU va devoir désigner son candidat, Ludovic Piétenu.
En 2020, la lutte contre la pandémie de coronavirus a pris toute la place. Exit les questions de succession, ou presque, puisqu'il a été demandé à Angela Merkel par certains de ses soutiens de rempiler pour un cinquième mandat. Extrait d'une interview de la chancelière à la deuxième chaîne allemande, la ZDF, le 4 juin 2020. Question, serez-vous candidate ? Non. Vraiment pas. La journaliste insiste. C'est un nom très ferme. Le problème avec une dirigeante Teflon, l'un des surnoms d'Angela Merkel, c'est qu'il est difficile de s'en séparer. Les Allemands la plébiscitent, elle tutoie des sommets dans les sondages de popularité, la crise sanitaire l'a renforcée ainsi que son parti, la CDU. Les chrétiens-démocrates se choisiront le 16 janvier un nouveau dirigeant, possible candidat à la chancellerie, et donc, vu la position majoritaire du parti conservateur, avec de bonnes chances de devenir le prochain chancelier. À la mi-décembre, un débat sur Internet, le seul avant le congrès de la mi-janvier, a réuni les trois candidats. Ils viennent tous de la même région à l'ouest, trois hommes pour succéder à une femme. Faisons les présentations. Friedrich Merz, avocat d'affaires et ancien député, adversaire déclaré de la chancelière.
Wir stehen vor einer Bundestagswahl, die ein...
Cette élection sera un tournant profond, une rupture pour l'Allemagne et pour la CDU, car Angela Merkel renoncera à ses fonctions de chancelière après 16 ans. Et je voudrais prendre la direction de la CDU en cette super année électorale 2021.
Armin Laschet, il dirige la grande région de Rhénanie du Nord-Westphalie, c'est un proche d'Angela Merkel.
J'ai 59 ans et je suis un chrétien démocrate passionné depuis l'âge de 18 ans, appartenant à ce parti qui a toujours incarné l'image chrétienne de l'homme. Car c'est cela dont nous avons besoin en ce moment, une politique axée sur des valeurs.
Et l'outsider Norbert Röttgen, qui dit ici apporter une éducation décente, son expérience dans la victoire comme dans la défaite au sein du groupe parlementaire au Bundestag depuis 26 ans, il apporte son expérience, il a été membre du gouvernement et ministre de l'Environnement de 2009 à 2012. Les présentations faites, ce débat n'a pas beaucoup animé l'Allemagne. Le professeur Volker Cronenberg de l'université de Bonn.
Cette compétition pour le moment n'est pas du tout conflictuelle. Chacun fait valoir ses petites nuances. Merz met en avant les problèmes du monde, il se présente comme celui capable de gérer les crises. Röttgen, c'est le renouvellement, le changement. Et puis vous avez Laschet. Lui, c'est on travaille tous ensemble. La continuité de ce qui a été fait par Angela Merkel.
La CDU doit se choisir un leader. En ce début d'année 2021, il n'y a plus d'autre option après déjà deux reports de ce congrès à cause de l'épidémie de coronavirus. Désormais, le temps presse. 9 mois avant les élections, le parti ne peut plus ignorer la question de la succession d'Angela Merkel.
Ludovic Piétenu à Berlin. L'Argentine légalise l'avortement. Cette nuit, le Sénat argentin a approuvé le projet de loi légalisant l'interruption volontaire de grossesse, et ce, sans condition, jusqu'à la 14e semaine de grossesse. Un vote important dans un pays où toutes les 3 heures, une jeune fille de moins de 14 ans est contrainte d'accoucher. Léopold Picot, adjoint à Buenos Aires, la députée de la 2e circonscription des Français de l'étranger en Amérique latine, Paola Forteza, elle a suivi le déroulement du vote.
Finalement, on a pu dépasser un peu ces oppositions stériles pour trouver un consensus plus large en faveur d'un droit acquis pour toutes les femmes argentines. C'est un avortement légal sans aucune restriction. On le retrouve que dans quelques pays en Amérique latine, en Uruguay, à Cuba. Évidemment, il faudra vraiment réfléchir à la mise en œuvre de toute cette loi, de faire prendre conscience aux médecins qu'il faut avancer dans ce sens et que ça devienne un vrai droit accessible pour tout le monde. On sentait l'aboutissement d'un effort militant de longue haleine, intergénérationnel, une joie partagée de sentir que enfin l'État argentin va prendre en compte cette question et va pouvoir améliorer la situation des femmes partout dans le pays.
Paola Forteza, députée des Français de l'étranger en Amérique latine. Au Yémen, plusieurs explosions ont fait au moins 26 morts et plus de 50 blessés à l'aéroport d'Aden. Un avion transportant le nouveau gouvernement d'union venait d'y atterrir. Des civils, des vigiles et des responsables locaux figurent parmi les victimes, mais les membres du gouvernement, eux, vont bien. L'avion arrivait en provenance de Riyad, où le gouvernement yéménite s'était exilé après l'arrivée des rebelles houthis à Sanaa en 2014. Les restrictions sanitaires sont encore durcies en Angleterre. Les services hospitaliers sont sous une pression extrême, avec plus de 21 000 malades du Covid hospitalisés au Royaume-Uni et une infection galopante. Les trois quarts du pays passent donc en niveau d'alerte 4, le plus élevé. Tous les commerces jugés non essentiels doivent fermer et les habitants doivent rester le plus possible chez eux. Le reste de l'Angleterre est au niveau 3, où seules quelques enseignes peuvent ouvrir. Le ministre de la Santé, Matt Hancock, l'a annoncé à la Chambre des communes.
Je sais que les mesures des niveaux 3 et 4 sont un fardeau pour les gens et en particulier pour les entreprises touchées. Mais j'ai bien peur que ce soit absolument nécessaire, étant donné le nombre de cas. Aujourd'hui, c'est un jour de sentiments mêlés. La joie que nous procure ce vaccin, une porte de sortie de cette pandémie, la fierté que notre pays soit encore une fois le premier à autoriser ce vaccin britannique. Le chagrin pour les morts et la souffrance que ce virus cause, et la détermination que nous devons tous avoir dans les semaines hivernales difficiles qui viennent. Nous terminons 2020 avec de grands défis à relever, mais aussi l'espoir qu'en 2021, nous aurons un meilleur avenir devant nous.
Autant dire que le vaccin mis au point par le groupe AstraZeneca avec l'Université d'Oxford est attendu avec impatience au Royaume-Uni. Le régulateur britannique vient de l'approuver. Cela devrait permettre l'accélération de la campagne de vaccination puisque ce vaccin est moins cher et plus facile à transporter que celui de Pfizer et BioNTech. En France, la campagne de vaccination contre le coronavirus débute tout doucement. À peine 138 personnes vaccinées sur les trois premiers jours de la campagne contre 40 000 en Allemagne qui a commencé en même temps. Alors pourquoi une telle différence? Les Français étant majoritairement sceptiques à l'égard du vaccin, le gouvernement n'a pas voulu les brusquer. Et puis, le choix a été fait de donner la priorité aux résidents des EHPAD. Or, dans ces établissements, le recueil du consentement des résidents ou de leurs proches prend du temps. Nathalie Maubourguet préside la Fédération des associations de médecins coordinateurs en EHPAD et elle a expliqué les difficultés rencontrées à Thomas Giraudeau.
La première personne qui peut donner son consentement, c'est le résident, voilà, sur le principe. Donc ça, c'est pour les résidents qui pourront donner leur avis. Et pour tous ceux qui ne le pourront pas, eh bien, on va solliciter les tuteurs, et ça, c'est pas simple. Et ben, pour tous ceux qui n'auront pas de tuteur, et s'ils ont une personne de confiance, eh ben, on se rapprochera de la personne de confiance. Et là où ça va devenir très compliqué, c'est quand il n'y aura ni tuteur, ni personne de confiance, et plusieurs enfants. Voilà, donc là, ça va pas être simple d'obtenir le consensus, en fait, je dirais familial, parce que si on sent qu'il y a vraiment des distensions dans la famille et que les enfants sont pas d'accord entre eux et qu'il n'y a aucun avis qui peut prédominer l'un sur l'autre, je vous cache pas que ça fait partie de nos discussions sur différents groupes WhatsApp et on n'est pas très enclin à avoir envie de vacciner si les gens sont pas prêts à y aller, quoi. Et donc là, ben, je pense qu'on aura beaucoup de cas par cas. Voilà. Et c'est ça qui va prendre beaucoup de temps, en fait.
Il y a des proches de résidents en EHPAD qui s'inquiètent. Ils se demandent si ces derniers refusent d'être vaccinés. Est-ce qu'ils seront enfermés dans leur chambre pour ne pas risquer de contaminer les autres résidents ou eux-mêmes être contaminés?
On peut tout voir, évidemment, mais je pense que c'est tout à fait exagéré parce que sinon, d'après les différents retours que j'ai, moi, de confrères France entière, c'est qu'on a vraiment, vraiment envie d'obtenir le consentement et on n'a pas du tout l'intention de le forcer. C'est au contraire dans la considération du sujet âgé et dans sa capacité à prendre des décisions pour lui. Moi, je serais très étonnée que les personnels utilisent le chantage pour optimiser la vaccination. Et puis en plus, ce n'est pas le résident qui est en EHPAD qui est le plus à risque de contaminer les autres. Ça, c'est certain. On a toujours bien compris que c'était le virus arrivé de l'extérieur. Donc sur le principe, je crois assez peu à ces méthodes coercitives.
Les employés des EHPAD essayent de recueillir le maximum de consentement pour la semaine du 11 janvier où les doses de vaccins devraient massivement arriver. Ils se déclarent prêts à se faire vacciner contre le Covid-19. 300 maires ont signé une tribune publiée dans le Figaro. Ils souhaitent en fait vaincre les réticences des Français qui seraient, selon un sondage, seulement 40% à vouloir se faire vacciner, Antoine Marette.
Ces 300 maires sont de droite et de gauche, aucun du Rassemblement national, et c'est le maire d'hiver droite de Poissy qui est à l'initiative de ce texte. Carl Olive, ancien producteur de télévision, a un certain sens de la communication. il souhaite faire bouger les mentalités des Français.
L'idée est venue de façon très concrète, comme tout élu de terrain qui se respecte, une visite au marché du dimanche et sur 10 administrés croisés, 6 qui me posaient la question de savoir si moi-même j'allais me faire vacciner. Et c'est comme ça que m'est venue l'idée de dire que aujourd'hui nous avons 60% des Français qui rechignent et que si nous pouvons faire basculer les indécis, alors il fallait être sans état d'âme pour faire activer cette partition.
Carl Olive se voit comme un fantassin de la République en prise directe avec la réalité du quotidien. Loin de l'élite qui suscite la méfiance de ses administrés, il assure que son initiative n'est en rien un signe de défiance à l'encontre du gouvernement, même s'il souhaite faire passer un message à l'exécutif.
Plus que jamais aujourd'hui, peut-être que le salut public passe par le couple préfet-maire, comme pour les masques, comme pour les écoles. Appuyons-nous plus sur le terrain, venons faire de la territorialisation sur le terrain. Et qui de mieux placé que les maires pour pouvoir les mettre en partition ?
Le maire de Poissy veut donner l'exemple. Il propose ainsi à l'agence régionale de santé que la salle des fêtes de sa commune devienne un centre de vaccination.
Antoine Marette, cela ressemble de plus en plus à un mariage forcé dont plus personne ne veut, mais où personne ne veut se dédire. Le contrat du rachat des chantiers navals de Saint-Nazaire par l'Italien Fincantieri devait être finalisé demain avec l'aval de la Commission européenne. Mais à la veille de l'échéance, rien n'était décidé. Le gouvernement français vient donc de décider in extremis d'accorder un mois de plus aux Italiens pour finaliser l'accord, Bénédicte Robin.
Et c'est la cinquième fois que l'accord est repoussé depuis qu'il a été trouvé il y a près de 3 ans. Et plus il est reporté, plus les parties prenantes semblent réticentes. Paris explique aujourd'hui que ce délai doit permettre à Fincantieri de donner plus d'éléments sur son projet à la Commission européenne, car la Commission doit donner son accord à ce rachat. Mais elle a des réticences, elle, sur les questions de concurrence et demande à l'Italie des précisions. Or, l'Italie assure qu'elle a fourni tous les documents nécessaires et qu'elle ne peut plus rien faire de plus. Des excuses pour les opposants à ce projet de rachat. Les élus locaux en tête qui, eux, s'inquiètent notamment de voir le savoir-faire français partir en Chine. Fincantieri s'est en effet rapproché des Chinois et semblerait lui aussi de plus en plus hésitant à s'engager avec les Français. La crise sanitaire est aussi passée par là. Autant dire que pour le maire de Saint-Nazaire, le socialiste David Samzin, il est temps d'arrêter cette vente.
Le seul constat, c'est que la France manque de courage politique. Le courage politique, c'est de dire à un moment donné que ce processus de vente, il faut arrêter. Je partage le point de vue du président de la République et de son gouvernement sur la nécessité de réindustrialiser ce pays. La situation économique, la situation sanitaire a démontré ce besoin de réindustrialiser notre pays. Et bien avant de parler de réindustrialiser notre pays, il faut tout simplement ne pas vendre nos fleurons industriels. Je demande au président de la République de mettre en adéquation ses actes avec ses paroles.
Et avec la présidente de région et le président du département, ils défendent d'ailleurs un plan B, un actionnariat de long terme à construire avec des investisseurs français.
Bénédicte Robin. Les voisins entendaient régulièrement ses pleurs jusqu'à ce que Tony, 3 ans, meure sous les coups de son beau-père. C'était en novembre 2016 à Reims. La loi oblige à dénoncer les mauvais traitements infligés à une personne vulnérable, ce qui a amené le voisin du dessous à faire l'objet de poursuites devant la justice. De tels procès sont relativement rares et la cour d'appel n'a pas condamné le voisin. Elle vient de confirmer le jugement du tribunal correctionnel, à savoir la relaxe, Florence Turme.
Non-dénonciation de mauvais traitements sur mineurs, un délit passible de 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Dans le cas présent, le parquet n'avait pas requis de peine à l'encontre du voisin, du petit Tony, mais il tenait à ce que la cour retienne sa culpabilité, ce qu'elle n'a pas fait, compte tenu des circonstances rappelées par l'avocate du prévenu, Ludivine Braconnier.
Dans le cadre de ce dossier, ce qui a été débattu, c'est de savoir si, au regard de la situation particulière de mon client et du fait qu'il n'était pas là constamment, qu'il était en formation, etc., est-ce qu'il pouvait avoir la connaissance des mauvais traitements que subissait l'enfant. Et au-delà de ça également, cette infraction nécessite que, alors qu'on en a connaissance, on n'ait pas agi, qu'on n'ait pas averti une autorité judiciaire ou administrative. Or, mon client, lui, et de tout temps, a indiqué qu'il avait évoqué la situation auprès du bailleur social, que la police était intervenue au sein du logement familial. Il pensait que les choses avaient été gérées par les officiers de police judiciaire qui étaient venus dans les lieux.
Ce procès montre aussi qu'il est difficile de faire d'un seul dossier un cas emblématique, même sur un sujet aussi sensible et douloureux que la maltraitance aux enfants. À l'audience, les associations de protection de l'enfance étaient elles-mêmes en désaccord. Nécessité de condamner condamné pour innocence en danger, risque de décourager de futures interventions selon la voix de l'enfant. Reste cette obligation légale et ce numéro d'urgence, le 119. Les témoignages y sont recueillis de manière anonyme, puis transmis aux services sociaux et aux procureurs en cas de danger imminent.
La mère et le beau-père auteur des coups doivent être jugés en février prochain devant la cour d'assises de Reims. Et avant de refermer ce journal, quelques notes de musique pour saluer le pianiste de jazz, compositeur et chef d'orchestre français Claude Bolling, qui vient de s'éteindre à 90 ans. Disciple de Duke Ellington, il avait été surnommé « Bollington » par Boris Vian. Claude Bolling était notamment connu pour ses bandes originales de films, notamment celles de Borsalino, de Jacques Doré. Il avait arrangé la Madrague, célèbre chanson de Brigitte Bardot, et on lui doit aussi la musique de la série télévisée Les Brigades du Tigre que vous entendez. Les Brigades du Tigre, musique de Claude Bolling dont nous venons d'apprendre le décès. L'année s'achèvera avec de la neige sur le nord et l'est de la France et de la pluie ailleurs. Les éclaircies reviendront l'après-midi sur le Poitou-Charentes, la région centre et l'Île-de-France. Température minimale de 0 à 6 à l'ouest, des gelées sur la moitié est. L'après-midi, il fera 1 à 5 sur le nord et l'est, 7 à 14 du sud-ouest à la Corse. Ce journal a été préparé avec Annie Brault.